Tu connais un petit peu Audiofanzine, donc...
Absolument. J'aime bien le ton de la newsletter, d'ailleurs.
De l'édito ?
Ouais.
D'accord, bah, je transmettrai à Arnaud.
Yes, je trouve bien, bien péchu et tout,
ouais,
sympa.
Ouais, il écrit bien.
Agréable à lire.
Ouais, tout à fait, ouais.
Alors, attends, avant de... puisqu'on est dans les...
Ouais.
Dans les procédures. Donc ça, c'est le prochain qui sort en septembre.
Ok, merci.
C'est un dual disc, ouais. C'est d'un côté DVD de l'autre.
D'accord.
C'est un duo piano-ordinateur. C'est-à-dire que je produis des sons avec le piano,
ouais.
Ou avec le clavier ou n'importe quoi d'autre.
Ouais.
Et mon collègue enregistre dans live, en direct ce que je joue, le boucle, le traite, et on accumule comme ça les boucles en avançant et en traitant. En partant du principe que avant de commencer il n'y a rien dans l'ordi et je nourris l'ordi qui réagit et qui progressivement absorbe la musique, la construit, la traite, voilà.
D'accord, ok. À ce moment-là, on en reparlera un peu plus en détail tout à l'heure si tu veux, puisque ça rejoint une des...
Je pourrais t'en mettre un petit peu si tu veux pour que tu...
Ouais, c'est une excellente idée. Donc ça, c'est la version définitive, ça y est.
Ouais,
d'accord,
absolument.
Ok. Bon. Et il sort en septembre, pourquoi ? Des questions de planning, etc. Il sort sur quoi ? Sur Nocturne ?
Nocturne,
ouais, d'accord, ok. Et pour des questions d'opportunité
De toute façon, pour les disques de jazz, il n'y a pas 36 000 moments où tu peux sortir un disque.
D'accord.
C'est-à-dire, en fait, il y a 5 mois par an
où
tu peux sortir un disque.
D'accord.
C'est-à-dire septembre, octobre, jusqu'à la mi-novembre. Après, c'est les précos de Noël, etc. Sortir après le 15 novembre, c'est trop tard.
Ouais.
Après ça, on laisse passer janvier-février. Mars-avril, jusqu'au 15 mai.
Ouais.
Et après le 15 mai, c'est fini.
Ouais.
Voilà.
D'accord.
Donc, ça fait 5 mois par an.
C'est grotesque,
mais c'est comme ça.
Je veux bien aussi les raisons et les conséquences.
Ouais. Alors, pour des choses qui se vendent mieux, c'est sûr que... Et plus sur la longueur, c'est sûr que c'est plus la date de sortie est moins importante.
Moins importante,
Tu vois, par exemple, Abdel Malik, avec qui il joue, il a sorti son disque en juin, l'année dernière. Il en est à 300 000 maintenant. Je dis, mais tu sors un disque en juin, mais t'es fou. Et puis il disait, bon, non, c'est pas grave, ça s'arrangera, tu verras et tout. Bon, mais c'est sûr que ça ne s'adresse pas au même public et on ne parle pas des mêmes
chiffres
de vente, bien sûr.
Bah, ça faisait partie, mais puisqu'on en parle, allons-y, ça faisait partie des trucs dont je vais parler un peu en fin d'interview. Avec des gens comme Adam Malik ou quand tu es en Simon, etc., qu'est-ce que tu trouves, toi, par rapport à quand tu bosses en... ou quand tu es plutôt sur le devant?
C'est agréable d'être sideman parce que ça veut dire qu'on n'a pas à se soucier des billets de train, des interviews à donner avant le concert, des autres musiciens qui ne sont pas contents parce qu'ils ne sont pas assez bien payés ou parce qu'ils vont être en retard. Et je ne suis pas là à flipper quand le train part si le bassiste n'est pas là. Ça, c'est un côté agréable de sideman, c'est de ne pas être responsable.
D'accord.
Là-dessus, ce que j'en retire, le plaisir de jouer avec des gens que j'aime bien et faire de la belle musique. C'est pas, je suis pas un forcené du devant de l'affiche.
Ouais.
Participer à un projet musical de valeur qui rencontre son public avec lequel il se passe des choses, pour moi, c'est ma récompense, quoi.
Ouais. Il me semblait pas que tu jouais sur l'album,
c'est venu après
le live. Ouais. D'abord, on va dire deux, trois mots un peu généraux parce que il y a quand même des gens qui ne te connaissent pas.
Ça arrive. Voilà.
Donc, je retaperai dans ta bio pour faire une présentation succincte, mais je vais que tu dises un peu ce qui t'a. Pourquoi d'abord le jazz, quoi.
Pourquoi le jazz? Eh bien, parce que ça ne s'explique pas. C'est absolument mystérieux. Personne n'écoutait du jazz chez moi. Personne ne jouait de musique chez moi. Et. Quand j'ai entendu un disque de jazz pour la première fois de ma vie, c'était, l'amour, le coup de foudre, quoi.
Ouais.
C'est vraiment le sentiment que, waouh, ça existe. C'est le sentiment que je savais que quelque part ça existait, que c'est vraiment comme les trucs à la noix de Michel Legrand, là, le parapluie de Cherbourg. L'impression que j'étais promis au jazz, quoi. Je trouvais ça la musique la plus belle du monde, quoi. ça s'explique pas. Et c'est d'autant plus étrange que ça arrive sur tous les coins de la planète, quoi. Il y a des mômes en ce moment qui sont en train de naître qui, dans 15 ans, des saxophonistes qui joueront comme John Coltrane. Mmh. Pour moi, c'est un grand mystère. Aussi grand d'ailleurs qu'en ce moment en Chine est en train de naître la prochaine grande interprète de Mozart. Mmh. C'est pas culturel, c'est très. C'est comme s'il y avait quelqu'un là-haut, une bonne fée qui distribuait les talents. Et c'est vrai en peinture, en littérature, en théâtre, en ce qu'on veut. Chacun est appelé comme ça vers la musique. Mais j'arrive pas à l'expliquer.
Non. D'accord, ok. Et alors. Là-dedans, l'électronique.
Alors, l'électronique, comment ça m'a fait un petit peu le même effet. Sauf que l'électronique, ça fait un bout de temps que ça existe.
Ouais.
L'électronique, le jazz est déjà passé à travers une période électronique dans les années 70.
Ouais.
Alors, je me suis longtemps demandé pourquoi, parce que j'aime bien me poser des questions. Il y a plusieurs choses. La première, c'est que en écoutant, il y a certains, par exemple, la musique, le travail d'Amon Tobin. Mmh. M'a vraiment filé une claque. C'est-à-dire, je découvrais une esthétique qui empruntait beaucoup au jazz, mais qui empruntait beaucoup à l'électronique d'aujourd'hui, à la drum and bass. Il y avait tout un travail musical que je trouvais très jazz. Alors, c'est marrant parce que j'ai causé avec lui, j'avais fait une interview. Lui, le jazz, il aime bien, c'est le côté film noir, il aime bien à cause de l'ambiance. C'est pas lui, Blue Note, Atlantique, tout ça, c'est pareil. C'est pas du tout un fan de jazz,
ouais.
Mais ce qui est étonnant, c'est que je trouve dans sa façon, par exemple, de traiter les patterns rythmiques, de faire évoluer la musique, c'est très jazz. C'est-à-dire qu'il prend un truc, il prend un pattern, hop, tout de suite, il va penser à son inverse ou à permuter, etc. Tout ce travail qui est, comment dire, une espèce d'activité permanente chez le jazzman, qui consiste à sans arrêt changer les formes à l'intérieur des formes, quoi.
Ouais.
Et je trouve que ce travail-là était vraiment extrêmement jazz. Et ça m'a vraiment donné un coup de fouet pour y aller. J'aimais beaucoup la drum and bass avant. Ça, c'est des choses qui m'impressionnaient. Au même titre que le jazz. C'est-à-dire, j'entendais, je disais, waouh, c'est monstrueux, j'ai envie d'en faire, je veux, quoi. Mmh. Je veux en faire. Et puis, je pense aussi que les musiciens qui se sont lancés dans la musique électronique, dans les années 70, les musiciens de jazz, je pense qu'aussi, ils arrivaient à un certain âge, auquel j'arrivais quand j'ai basculé là-dedans, qui est que, bon, on a envie un petit peu de rafraîchir le répertoire, de un peu d'air, un peu
de. On a digéré son jazz et on a envie de
Oui,
puis
autre chose. C'est-à-dire, on a envie vraiment de s'attaquer à des choses qu'on ne connaît pas, qui demandent un apprentissage, je pense qu'on a toujours un appétit quand on est musicien. Et ça, c'était une espèce de vague déferlante dans la musique qui arrivait avec des nouveaux instruments, l'ordi, les sampleurs, une nouvelle approche de faire de la musique, je dirais presque une perspective d'ingénieur du son. Pour moi, c'était ça. Tout ça, c'était une découverte. C'est-à-dire que la musique existait aussi comme une matière sonore et pas simplement comme des notes qu'il fallait enregistrer. Mmh. Tout ça, ça a été une vraie révolution pour moi. Alors bon, moi, j'ai un Mac depuis, je sais pas quoi, 1983 ou 84. Mmh. J'ai toujours aimé l'informatique dans la musique, mais c'est vrai que à l'époque du MIDI, il fallait avoir beaucoup de matos, et puis c'était quand même assez rigide. Et puis bon, grosso modo, c'est le tournant des années 2000, le G3, des ordis et des logiciels beaucoup plus puissants qui tout d'un coup donnaient à n'importe quel musicien amateur la possibilité d'avoir l'équivalent numérique, un peu cheap, mais quand même, d'un studio d'enregistrement qui est au-delà de la portée de n'importe qui, quoi.
Ouais.
Donc moi je m'y suis jeté avec beaucoup d'enthousiasme, justement parce que c'était des nouveaux instruments, nouvelle musique, fallait inventer, fallait se creuser le chou, fallait prendre ici et là, fallait se poser toutes sortes de nouvelles questions. Moi j'adorais, quoi.
Ouais. C'est marrant que tu parles du G3 comme tournant et des logiciels, puisque justement c'est une des questions que j'avais sur ton approche de travail entre tout ce qui est travail justement logiciel et sur informatique et tout ce qui est hardware. Mmh. Parce que j'ai vu que tu avais un petit peu de hardware.
Peu, mais du bon.
Oui. Voilà. Donc voilà, parce que avant l'informatique musicale, il y a eu les machines qui sont arrivées, les samplers, les trucs comme ça, hardware, etc. Et pour toi, c'est vraiment l'informatique musicale qui a permis d'avoir ce coup de boost.
Oui, parce que les samplers, ça permet de produire du son, mais pas réellement de le traiter, et de l'arranger, de l'organiser. Alors bon, c'est vrai que le MIDI, c'était bien pratique, et c'est encore super, mais c'est-à-dire que tout d'un coup, les logiciels en fait, proposaient tout simplement une console d'enregistrement avec des racks d'effets entiers. Bon, et ça, c'était pas à la disposition, ça n'existait pas en MIDI, quoi. Une reverb MIDI, ça n'existe pas. Et donc, tout d'un coup, on passait vraiment à une autre dimension, quoi.
D'accord. Donc c'est vraiment effectivement le travail d'ingénierie sonore et de triturage du son acoustique qui t'a intéressé plus que par exemple les possibilités de programmation, quoi.
Les deux, les possibilités de programmation, ça faisait un moment que je bossais dessus, mais comment dire, quand on envoie un délai dans un filtre, c'est de la programmation et c'est du triturage de son, et c'est ça qui fait la musique, quoi.
Ouais, tu travailles en soft, tu travailles avec quoi? Donc tu travailles Digital Performer?
Ouais, je suis sponsorisé par EP, par Motu. J'ai travaillé sur Cubase, beaucoup sur DP, je continue pour toute la prise de son. J'y suis habitué, c'est un menu que je connais, donc je m'y sens confortable. J'ai travaillé sur Logic, bien sûr. Un peu dégoûté du prix du logiciel, du prix des updates. Je trouve ça limite. Là, le disque que je t'ai donné, on l'a fait dans Live. Tous les logiciels sont bien ou pas bien en fonction de ce qu'on veut en faire, quoi.
Ouais. Et sinon, en instruments virtuels, tu utilises des instruments virtuels, des synthés virtuels, des choses comme
pas
ça?
Pas énormément, quelques-uns, les émulations de Moog, tout ça, mais pas énormément en instruments virtuels, non. C'est-à-dire que bon, pour ce qui est clavier, le piano, j'enregistre mon piano, le rose, j'enregistre mon rose. Et je trouve que aussi bien qu'on arrive à imiter ces instruments, nothing like the real thing.
Ça, c'est clair. Par contre, je voyais aussi, à propos de clavier, justement, dans ta liste de matos, que tu avais un DX7 et un Orlick, je crois.
Ouais.
Et
un D50. Et un D50.
C'est les
survivants des années 80.
Et je connais pas tous tes albums et pas par cœur, mais en écoutant, il m'a pas semblé beaucoup les entendre, notamment le DX7, etc. Donc c'est des trucs que tu as en collector ou
C'est les claviers que j'avais à l'époque à New York, ça permettait de faire des concerts quand il n'y avait pas de piano. C'était des synthés, la révolution, des algorithmes, de la musique digitale par algorithme, c'était vraiment un truc énorme. Puis le D50, c'est-à-dire le mélange de ça et de petits échantillons, c'était hyper excitant. Ouais. C'est sûr que ça donnait vraiment envie. Je jouais dans des groupes de folk, etc., où ce genre de musique était nécessaire. Et puis, c'était mon matos MIDI, quoi. Je leur faisais jouer toutes les voix que je pouvais leur faire jouer pour écrire des morceaux. Je m'en servais comme de clavier de travail, c'est-à-dire quand je voulais travailler un morceau, des grilles, je me faisais des petites walking bass, je me faisais des progrès, des machins, des différentes signatures rythmiques, différemment. Et puis ça me servait pour, grosso modo, pratiquer la musique. Mais c'est vrai que j'ai jamais mis du DX7 dans mes disques, parce qu'à l'époque, je faisais du jazz hardcore. Le Nordlead, j'en mets un petit peu, j'ai mon micro Wave XT aussi. Alors là, sur mes disques électro, ça j'en ai plus mis.
D'accord. Et ce qui te ramène a priori quand même beaucoup plus sur le Rode ou sur le piano, a priori essentiellement sur le Rode, sur les disques électro, c'est quoi? C'est le feeling avec l'instrument, ou c'est que c'est un son qui est tellement increvable et qui colle tellement dans l'ambiance électro que c'est pas la peine d'aller chercher autre chose sur d'autres.
C'est-à-dire le fait que ce soit increvable, à la limite, ça jouerait contre lui, parce que ça veut dire que quand on le joue, l'instrument est. Et je dirais daté, même s'il continue d'être joué, mais ça renvoie à un certain type de musique, etc. Or, c'était un petit peu à ça que je voulais échapper.
C'est marrant parce que moi, je trouve justement qu'au contraire, c'est ça qui le rend increvable. c'est que même si on connaît déjà le son par cœur et qu'on l'a déjà entendu dans X fois, je trouve qu'une, personnellement, une des particularités du rôle, c'est de prendre une couleur, enfin, une tonalité, une couleur relativement différente selon le cadre dans lequel il est employé.
Tout à fait. Ah ben, moi,
et,
j'adore.
Et donc, c'est ça qui fait qu'il continue à être autant d'actualité.
Ouais, ben oui, il y a tant de façons de le jouer. C'est-à-dire que moi, je suis pianiste. Pour moi, c'est très important de sentir le poids de la mécanique et le marteau qui va sur la corde. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et j'ai souvent, quand je joue du piano, des très grandes dynamiques. C'est-à-dire que je joue pianissimo, ou alors vraiment être à la limite du claquage. Quoi. Mm-hmm. Et le Rhodes, c'est le seul autre clavier qui a une vraie mécanique avec un marteau qui tape les petites lamelles de métal. Mm-hmm. Et la dynamique du Rhodes, moi, j'ai jamais entendu de sampleur qui restituait tout le champ dynamique. Parce qu'on considère que taper très fort, ça se fait pas, mais si ça se fait, et ça sonne. Et ça sonne monstrueux. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle je suis allé naturellement vers le Rhodes. C'est parce que c'est un instrument dans lequel je me sens bien et dont la dynamique m'est confortable. Mmh. Un clavier numérique, moi, ça me fait pas triper du tout. J'ai l'impression d'avoir des gants en plastique.
D'accord, donc c'est vraiment une question de ressenti de pianiste avec le clavier.
Et heureusement qu'il y a le Rhodes, sinon j'aurais été vraiment très très malheureux. C'est-à-dire que j'aurais joué aucun clavier, quoi, je pense.
Ouais.
Ça m'aurait, je sais pas quoi, j'aurais joué des samples. Enfin bon, ça m'aurait manqué, quoi.
D'accord.
Par contre, le Nordlead, j'adore.
Ouais.
J'adore, j'utilise sur des gigs et tout ça. J'aime beaucoup le Nordlead. Vraiment, c'est un très bon synthé, quoi. Ouais. C'est vraiment le DX des années 2000, je pense.
Ouais, tout à fait. Ouais, tiens, justement, en parlant de matos, je me demandais si t'étais du genre, c'est-à-dire à essayer beaucoup de matos, en acheter beaucoup, le revendre beaucoup, ou pas le revendre d'ailleurs, et garder quelques trucs, les crèmes là-dedans. Disons que maintenant, t'es à un stade où t'as un set qui te convient et non, donc tu bouges pas trop.
C'est ni l'un ni l'autre. En fait, j'achète pas et vends beaucoup de matos. Non. D'une façon générale, j'aime bien garder du matos parce que la vieille reverb pourrie, parce que le vieux DX, et ben même si je m'en sers une fois par an,
il y a le moment où j'aime
bien. Puis je pense que pour mes mômes, après ça, enfin bon bref, ça me fait un peu mal au cœur de revendre du matos. Quoi.
Ouais.
Et puis parce que justement en termes de matériel. Un équipement n'annule pas l'autre, il est toujours, il y a quelque chose de plus, quelque chose de moins. Bon. Je me renseigne beaucoup, j'essaye, je parle aux gens, etc. Puis quand je fais mon choix, boum, j'achète et je garde.
D'accord.
Mais c'est jamais fini.
Ouais.
C'est jamais fini.
De toute façon.
Ici c'est un home studio dans lequel je fais mes prods à moi, puis également des prods pour d'autres gens. Ouais. J'ai un principe qui est que tout l'argent que je gagne, j'en investis la moitié dans de l'équipement pour mon home studio, mais c'est également le tabouret de la batterie là, qui est cassé, qu'il va falloir racheter, etc. Enfin, bon. De rendre un home studio le plus polyvalent possible, tout en sachant très bien que ce ne sera jamais un studio d'enregistrement. Et d'ailleurs, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça, c'est une autre histoire. Et par exemple, l'ingénieur du son d'Abdal Malik, lui, c'est l'archétype du gars qui achète sans arrêt du matos sur Internet, qui vend sans arrêt sur Internet, et c'est jamais fini. Mmh. Et toujours, quand on est, il y a le Wi-Fi ici, attends, faut que j'aille mettre une enchère sur eBay et tout. Il y a plus que 2 minutes et tout. J'ai une technique, c'est de mettre à la dernière seconde. Enfin bon. Et ça, c'est au-dessus de mes forces. Et puis même, le trip d'ingé son, c'est jamais fini, quoi. En termes de budget, ça, c'est la folie, quoi. Et puis, j'ai pas la patience, et puis, je suis pas assez technicien, je suis pas assez ingé son pour ça.
Ouais. Peut-être pas qu'en termes de budget aussi, je pense qu'il y a, en termes de maîtrise, à chaque fois que tu as un nouveau micro, etc., il faut du temps, c'est comme un instrument, il faut du temps pour la prise.
Voilà, moi, je suis plus, je crois beaucoup plus au succès d'un petit setup, et c'est ce que je dis souvent quand on me pose la question, qu'est-ce que tu as ? Je dis, peu importe le setup, ce qui compte, c'est d'être à l'aise et de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et de connaître le chemin. Jamais fini, quoi. En termes de budget, ça, c'est la folie, quoi. Et puis, j'ai pas la patience, et puis, je suis pas assez technicien, je suis pas assez ingé son pour ça.
Ouais. Peut-être pas qu'en termes de budget aussi, je pense qu'il y a, en termes de maîtrise, à chaque fois que tu as un nouveau micro, etc., il faut du temps, c'est comme un
instrument. La différence du son, c'est jamais fini. De toute façon, comment dire, par exemple, pour enregistrer du jazz, au début, des gars comme Rudy Van Gelder, ils enregistraient ça dans leur salon, quoi. Mmh. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh ben, ils construisaient leur console de mixage, leur micro, leur magnéto. Les gars, ils fabriquaient tout, ou alors ils récupéraient un peu ce qui existait déjà, puis ils customisaient, etc. Et comment est-ce qu'ils customisaient, Rudy Van Gelder ? Eh ben, en fonction du salon de ses parents, quoi. Mmh. C'est-à-dire que lui, il avait cette optique-là, il savait que dans cet environnement-là, ce serait bien d'avoir ce micro-là, il fabriquait pour, etc. Donc, très rapidement, on rentre dans une spécificité de l'équipement, et c'est sûr que de nos jours, l'informatique, un des attraits incroyables de l'informatique, c'est que le champ des possibles est très ouvert, quoi. Et donc, quand tu achètes du matos maintenant, USB 2, Firewire, machin, MP3, IFF, .wav, tatati, tatata, toutes les options, les trucs, et si tu veux connecter avec une batterie, si tu veux, de façon à ce qu'on essaie de trouver le plus d'acheteurs possible, tout en sachant très bien que chaque acheteur va n'utiliser qu'un dixième des possibilités du matos, quoi. On croule sous les possibilités. Mais alors lui, il fait ça en plus, et puis ça en plus, etc. Bon, ça, c'est un peu le hype dans lequel les constructeurs nous mettent pour nous faire acheter du matos. On leur en veut pas. Et on les remercie de nous faire du bon matos comme ça, mais on va pas tout acheter quand même.
Justement, puisqu'on parle de son et de production et de... Donc, pour parler de deux albums que j'aime assez, Time for Change et Sorism, je trouve qu'ils ont un son assez différent. Time for Change, c'était toi qui étais producteur. Mm-hmm. Sur Sorism, j'ai plus le nom.
Smudge,
voilà. Mm-hmm. Moi, je trouve que Time for Change a un son plus brut, plus rude, et Stories a un son plus, à la fois, je dirais, plus riche, dans le sens, dans le sens qui fait riche, et en même temps plus, plus gros son, voilà, ouais. Mais aussi un son plus lisse et moins côté des... à fleur de peau, quoi. Est-ce que c'était des choix? Est-ce que ça s'est trouvé comme ça par le travail du producteur? Vers quoi est-ce que tu as une préférence pour l'un ou pour l'autre, et vers quoi tu souhaites tendre sur les prochaines créations ou sur le dernier sur PCPC?
Non, ça s'est fait comme ça, et puis tu sais, c'est toujours pareil. Je me rappelle faire une interview de Herbie Hancock, et puis je lui faisais écouter différents disques. Et puis il y a un disque, je crois que c'est Sunlight, Indie. Et on avait parlé d'un album auparavant qui s'appelait Thrust, qui est un de mes albums préférés de lui, qu'un truc qu'il a fait en 74, qui est monstrueux, mais vraiment monstrueux. Et Sunlight, il a dû le faire genre 10 ans après. Et il me dit, tu vois Sunlight, et ben c'est ce disque-là que je voulais faire quand j'ai fait Thrust. Je me rappelle lire une interview de Miles Davis aussi, parlant de l'enregistrement de Kind of Blue. Il disait, mais moi, ce que je voulais, c'était les petites mélodies que je me chantais quand j'étais gamin, et que j'étais dans les États du Sud, et que je marchais, et puis que je chantais du blues. Voilà. Et il dit, mais c'était pas du tout ce qui est à l'arrivée, parce qu'après ça, il y a Bill Evans et tout ça, puis il y a la musique modale, et puis c'est pas du tout ça. Et je pense que dans toute création artistique, je dis souvent, c'est en cherchant le sucre qu'on trouve le beurre, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que t'as vraiment une direction que tu te donnes et qui est un peu ce qui articule tout ton travail musical, artistique, esthétique, le choix du matos, etc. Et malgré ça, ça sort d'une façon qui n'est pas du tout celle à laquelle tu t'attendais. D'ailleurs, tu t'attends à rien, puisque devant, c'est le vide. Donc, toi, tu essaies de mettre... Alors, je ne suis pas assez ingénieur du son pour avoir déjà une idée, du son. Donc, je suis toujours étonné de ce que je fais en électronique, parce que le son m'étonne. Alors, ce que tu dis est tout à fait exact. Le premier, je l'ai fait quasiment tout seul. Donc, c'est effectivement un peu brut. C'est plein de... Il y a beaucoup d'erreurs de débutants, il a plein d'imperfections, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que... Enfin bon, Alors, ce que j'avais essayé de redresser, ce qui m'avait pas plu à l'écoute, c'est que j'avais l'impression qu'il partait un peu dans tous les sens, le premier disque. Mmh. C'est-à-dire qu'esthétiquement, l'éventail était un peu trop large, et du coup, on sautait un peu d'un son à un autre, d'un morceau à l'autre. Donc, je sais que ça, c'était une démarche consciente de ma part. Je voulais, pour le suivant, avoir un son qui soit plus un son d'album. Mais d'un autre côté, le son d'album, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais je sais que ça faisait partie de mes objectifs conscients. Alors, mais je sais qu'en écoutant le disque après, je me suis dit, ouais, un peu lisse. J'avais peut-être essayé trop fort d'avoir un son. Ouais. Après ça, il faut écouter le troisième que j'ai fait qui s'appelle Organix, dont je dois avoir une copie là. Je vais te donner ça. Et celui-là, il était beaucoup plus brutal. Beaucoup plus brutal. Et justement, j'avais envie de renverser la vapeur et de faire un truc qui soit beaucoup plus dans la face. Et je dirais que c'est vraiment trial and error. J'essaie, je regarde les erreurs, j'essaie de les corriger. Ce qui est bon, c'est fait, et on essaie d'inventer autre chose. Bon, pour moi, c'est ça le principe.
Donc, a priori, aujourd'hui, c'est plus le choix quand même dans la face, ou c'est quelque chose qui peut changer d'un album à l'autre et d'envie
à l'autre?
Ah, ben
là, on est tombé en électronique sur cette combinaison piano-ordinateur, qui est une véritable découverte instrumentale en ce qui me concerne. C'est-à-dire que c'est une façon différente de jouer mon instrument. C'est une façon différente de manipuler l'ordinateur, c'est une façon différente de fabriquer de la musique. Et je dirais que cet album est, je dirais, la musique qui nous est venue le plus naturellement, ou plutôt celle qu'on avait le plus, je dirais, dans notre mémoire de musicien, et qu'on a exécuté avec cette nouvelle instrumentation. Alors je pense que cette instrumentation nécessite d'inventer une musique qui va avec. Mmh. Alors, pour moi, on en est vraiment au début. On a fait 3 concerts live. On a fait plusieurs scènes de travail, 2 semaines par-ci, 3 semaines par-là. Il faudra que je te donne l'adresse. Parce qu'en fait, le disque aussi, il vient en version... avec un livret de 40 pages, ouais. Des illustrations en dur, avec du tissu dessus, etc. Bon, malheureusement, mon producteur m'enfile genre 5 par mois, parce que ça coûte 6 fois la femme.
Ouais, j'imagine.
C'est
ouais.
Un très bel objet.
Ouais.
Dans lequel j'explique un petit peu toute la jeunesse du projet. Mmh. On commence juste à maîtriser l'alphabet de cette instrumentation,
ouais,
quoi. On fait des gammes, on essaie des trucs. Bon. Et Autisto et moi, on est très excités par le projet parce qu'on sait que plus on va faire de concerts, on va faire un certain nombre de concerts. Je pense qu'au bout de 7 ou 8, on va avoir ce répertoire-là bien dans les pattes. Et ouais. C'est là que ça va commencer à devenir drôle. Parce qu'on va dire, bon, et là, où est-ce que ça va? Et à partir du moment où on a l'instrument bien dans les pattes, c'est là qu'on peut vraiment plus se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire comme musique pour aller dedans. Donc j'espère que cette formule, on va l'exploiter, l'approfondir et que ça va donner lieu à d'autres aventures.
Justement, sur les concerts aussi, par rapport à ce travail avec Live qu'il effectue, ça veut dire qu'il reprend, vous reprenez en concert toute la même démarche que vous avez pour produire l'album, c'est-à-dire qu'il enregistre en direct tes boucles et qu'il les rebalance en direct et qu'il retravaille tout ça en direct, ou est-ce que vous utilisez des éléments préenregistrés et un mélange
alors,
de tout
bon,
ça?
Théoriquement non. C'est vrai que donc on a fait un concert avec ce répertoire là et Autisto avait gardé sous le coude un certain nombre de, parce que on en est encore au début, et de bien capter le son, d'avoir le micro au bon endroit, tout ça, c'est pas toujours évident. Donc parfois, je fais ce petit truc qu'on a fait ici, mais ça sonne pas pareil, y a pas assez de volume, etc. Et donc, on a commis un petit peu le péché de faillir à la règle qu'on s'était donnée. Et donc, il balance quand il voit que ça... Hop, il balance le truc et c'est parti. Mais dans l'idéal et dans la règle qu'on se fixe et on essaie vraiment de s'y tenir... on arrive sur un tableau vierge.
D'accord.
Et c'est ça, c'est quand même ça la beauté du truc.
Ouais.
Alors, ce qui se passe, c'est que le spectacle comprend aussi un gars qui fait de la vidéo,
ouais.
Et qui, en fait, filme de façon très explicite la façon dont on est en train de fabriquer la musique. Et je trouve que c'est très important ça, parce que un des problèmes avec l'ordinateur maintenant, c'est que un gars arrive avec son petit G4 ou son PowerBook, hop, il ouvre, il branche, il appuie sur play, et puis alors il y a les musiques de la Metro-Goldwyn-Mayer, le pont de la rivière Kouai, le LA Symphonique Orchestra, et les gens sont là, alors, pff, facile et tout, ouais, c'est un ordi. Bon, on a perdu complètement la magie du truc. C'est pas très sexy un ordi. Bon, alors c'est sûr que Autisto, lui, il utilise des contrôleurs. Bon, donc il y a vraiment un travail manuel. Mais même la façon dont moi je fabrique le son, dont je vais dans le piano, dont je joue avec les ongles, je jette des petits objets, je joue avec le poing sur la table d'harmonie, ça fait une grosse caisse. Ça, le public, il peut pas le voir, sauf s'il est vraiment dans un amphithéâtre avec beaucoup de surplomb, ce qui est assez rare. Donc, le fait d'être associé visuellement à la création de la musique, ça permet vraiment de comprendre comment elle est fabriquée, comment l'ordinateur est un vrai instrument de musique qui se manipule avec ses erreurs, ses machins, les fausses notes, tout ça. Et je pense que c'est un vrai plus de pouvoir voir.
C'est toujours le problème des lives électroniques et de savoir qu'est-ce qui est vraiment du live ou pas dans un live électronique.
Exactement, c'est un vrai problème.
Ouais. On en vient à deux autres questions qu'on traitait l'une après l'autre. Les albums électroniques, en studio, ils sont traités comment ? Est-ce que c'est enregistré live comme un album jazz standard ? Est-ce qu'il y a un peu ou beaucoup de re-re ? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait à la post-prod, etc. ? Quelle est l'approche ?
Alors, elle est évolutive. La première, pour le premier disque, j'ai écrit la musique de façon assez loose, ouverte, libre. On est allé 2 jours en studio et on a enregistré sur des boucles avec un clic, mais sur des boucles de base, parce que moi mon objectif c'était de ramasser le plus de data audio et de voir ce que ça allait devenir. J'avais pas encore, je tâtonnais quoi. Et donc il y a des morceaux que j'ai quasiment entièrement reconstruits dans le studio.
D'accord. Ça, c'est presque plus une approche on pourrait presque dire une approche de DJ d'après l'enregistrement.
Exactement, je me disais, c'est comme ça qu'ils font. Moi, je vais me faire ma propre banque de samples. Mm-hmm. Plutôt que d'aller chercher dans les disques, je fais mon disque et puis je me sample.
D'accord. Voilà.
Bon, ça, c'était ça semblait logique.
Ouais.
Ça m'a pris, mais un an. Horrible. <Logique. rire> Donc, le disque d'après, je me suis dit, je vais pas faire comme ça, je vais travailler les machines et puis je vais poser, je vais faire le travail ici, c'est-à-dire qu'après ça je vais faire venir les musiciens un par un, je vais les faire jouer sur le truc. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait. Du coup, la musique est un peu, statique, dans la mesure où elle est vraiment machinique, quoi. Mmh. Dans le premier album, elle était plus tributaire de l'audio qui allait rentrer. Bon, même si après elle a été corrigée par la machine, c'était un peu plus. C'était quand même l'audio qui. Comment dire. C'était les samples qui donnaient le ton, quoi. Dans ce deuxième album, c'était beaucoup plus les machines, la prévision, la production, mettre une piste de basse, etc. Même si je ne savais pas exactement quelle ligne de basse j'allais mettre, c'était pas vraiment fais ci, fais ça. Mais dans cet environnement de son là, vas-y, joue, lâche-toi, et puis on va garder ce qui nous intéresse. Et alors, comme j'étais arrivé un petit peu au bout de cette logique-là aussi, je me suis aperçu, et c'est donc mon troisième album organique, ce qu'on a fait avec Gaël Aurélou, où alors là, on est arrivé à l'évidence, qui est qu'il fallait composer un répertoire avec les machines, le jouer avec l'orchestre, le jouer sur scène, plusieurs fois, et quand ça tourne, aller en studio. Et après, on rentre à la maison, on découpe, on machin, etc. Mais on garde l'espèce d'urgence du machin, quoi.
Enregistrement live. Donc.
Voilà, enregistrement live. Et je pense, à ce jour, que c'est, pour ce genre de musique orchestrale avec machine et instruments acoustiques, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Et là, par contre, on a travaillé très vite. On a fait ça en 2 mois, quoi. Mmh. parce qu'on avait le matos, même si on n'a pas pu s'empêcher de tricher, qu'on a redécoupé des lignes de basse, qu'on les a modifiées, et que du coup, le bassiste, quand il est arrivé, pauvre Philippe Buissonnet, il est, vous voulez que je joue ça, les gars, mais c'est pas moi qui joue ça. Ouais, on sait, mais tu vas y arriver. Mais c'est un peu le principe, c'est-à-dire, c'est un peu le principe de la drum and bass qu'on a entendu parce que c'était des machines qui jouaient, et puis maintenant il y a toute une génération de batteurs qui jouent ces patterns, ouais. Alors que ça aurait été absolument inimaginable de jouer ça si des machines ne l'avaient pas joué avant. Il y a un feedback, quoi, vraiment.
Ouais. Bon, on se rend compte aujourd'hui de la façon dont effectivement la musique électronique a nourri les autres genres musicaux.
Absolument, ouais. Et l'essentiel quand on travaille sur cette matière, c'est de garder le feedback ouvert le plus qu'on peut, quoi. C'est-à-dire que la machine donne envie de jouer et que le jouage donne des idées de machine, quoi.
Alors justement, on en arrive à une autre question pour laquelle il me semblait que tu étais une des personnes idéales pour y répondre. Je joue aussi sur scène avec instruments et machines, et tout comme toi, avec ton, de ce que j'ai vu sur scène, avec ton piano et ton sampler, mais j'ai vu également qu'il y avait d'autres machines. C'est pas toujours simple de gérer les deux. Alors il y a plusieurs choses. Comment est-ce que tu gères, toi en tant que musicien, ce côté-là d'être à la fois chef d'orchestre, d'avoir à penser au déclenchement de tes machines, etc., et le détachement, la concentration nécessaire, etc., au beau solo de jazz et au fait de rentrer dedans et de plus penser
à ça. Justement, ça aussi, ça a été évolutif. Sur le premier groupe que j'avais, donc sur le premier disque, c'était moi qui jouais les machines, mais c'était un peu pauvre parce qu'effectivement il y avait du jouage et que j'étais du coup obligé de laisser tourner des boucles qui tournaient de façon un peu statique. Alors ça m'a frustré. Donc dans le groupe d'après, j'ai pris un DJ qui balançait des séquences à l'ordi, qui avait la MPC, etc. Moi j'avais aussi des échantillons, mais du coup déjà ça nous permettait d'échanger des matières sonores, etc. Et puis pour tout le traitement, c'était lui qui s'en occupait. Et donc pour le troisième groupe qui jouait le répertoire de mon troisième disque, là j'ai laissé quasiment toute l'ingénierie à Gaël, mon saxophoniste, ouais. Qui jouait les thèmes et puis ses solos. Et moi je sais que de tout l'accompagnement, par exemple, je pouvais finalement le faire de façon beaucoup plus relaxe. Donc progressivement j'ai délégué l'électronique, et précisément pour ces raisons, parce que c'est trop dur de tout faire en même temps. Dans ce genre de musique, ouais. Dans le genre de musique que je fais, c'est-à-dire quand je vois Bugo Veseltoff, c'est des plages qui sont avec des montées beaucoup plus lentes, c'est très atmosphérique. Donc là, on a plus le temps de gérer un petit peu tout en même temps. Mmh. Et puis, lui aussi, il avait un DJ. Dès qu'on va dans des tempos un peu plus speed, avec des trucs codes, des breaks, ça pose vraiment un problème. Ça pose vraiment un problème.
Ouais. Alors, l'autre question aussi, c'est comment concilier dans le jazz la certaine rigidité des machines avec le côté par définition improvisé et assez libre du jazz.
C'est-à-dire la musique aussi est rigide, hein, ouais. Le time c'est quelque chose d'assez précis, ralentir ou accélérer, tout le monde a le droit de le faire, mais il faut savoir aussi où est le tempo exact. Alors la machine pour ça c'est une aide précieuse. Il faut apprendre aussi à desserrer la machine, ouais. à ne pas lui donner une rigueur telle qu'elle empêche la musique de se fabriquer, c'est sûr. Mais ça, c'est également, tout dépend de la façon dont on conçoit la place de la machine dans la musique, quoi. Moi, je me rappelle que j'avais vu un concert de Saint-Germain. J'avais été très déçu parce que, en fait, c'était extrêmement linéaire d'un point de vue machinique. Quoi. C'était vraiment push-play, et puis voilà, quoi. Puis des boucles, allons-y, quoi. Et pour moi, ça, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Bon, après ça, lui, c'était ça parce que c'est tout simplement l'exécution de sa musique et que ça marchait très bien comme ça. Ouais. Mais d'un point de vue scénique, je trouve que ça fonctionnait pas et que c'était pas. Le voir sur scène, ça n'amenait rien, grosso modo. Parce qu'il y avait les solistes devant et puis il n'y avait aucune interaction entre les machines et les solistes. Ouais. Les gars, ils avaient leur plage et puis voilà, quoi. Et pour moi, ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant pour moi dans un groupe, c'est que tout le monde relève ses manches et on sait pas où ça va et que la machine, on va la muter, on va la pitcher, puis on va la faire passer dans un effort qu'elle n'avait pas pensé et ça va donner des idées aux solistes, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse.
Concrètement, justement, par rapport à tout ça, comment est-ce que vous arrivez à gérer les synchros de machines et ce genre de choses? Parce que ça, c'est...
Quand on est plusieurs machines sur scène?
Ouais, ouais.
MIDI.
D'accord.
Okay. En MIDI.
Ok.
Un grand câble MIDI.
On parlait de musiciens, justement. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de trouver d'autres bons jazzmen électro-compatibles?
C'est pas
facile.
Parce
que le jazz est quand même un milieu à la fois en perpétuelle évolution, mais aussi un milieu qui est assez... C'est cynique, c'est poncif, c'est archaïsme.
C'est-à-dire que c'est surtout au niveau de la section rythmique, quoi. Contrebasse, basse, batterie. Mm-hmm. Il faut. C'est effectivement pas facile de trouver des musiciens qui comprennent les exigences, qui ont l'habitude de jouer avec des machines, des batteurs qui aiment jouer. Enfin, il y a beaucoup de batteurs qui n'aiment pas jouer avec des machines, ou qui n'aiment pas jouer avec un clic, ou qui préfèrent jouer avec un clic plutôt qu'avec des machines, etc. C'est difficile de trouver effectivement des gars qui vont bien faire sonner cette musique tout en se sentant à l'aise dans le contexte. Ouais, c'est pas souple d'un cheval. Pour les solistes, les soufflants, tout ouais. ça, c'est plus facile parce qu'en fait, finalement, ils ont l'habitude de poser à peu près n'importe où et ça leur pose. Pour eux, c'est pas un problème. Après ça, il faut comprendre les exigences de cette musique et où elle peut aller et où elle peut pas aller. Et comment dire et comment éviter les écueils un peu du lieu commun du jazz quoi.
Ouais.
Mais c'est moins difficile de trouver un soliste convaincant qu'une section rythmique convaincante, ça, c'est sûr.
J'avais justement été assez bluffé sur le live au Trabendo, alors c'est facile le tien avec
Tu avais
fait venir les deux groupes.
Oui, c'était le groupe et ses remplaçants.
Voilà, c'est ça. et que moi j'adore, que j'ai vraiment trouvé savoureux. Et j'avais été assez épaté par la capacité justement du batteur et du percussionniste de se mélanger, de se cumuler, etc. avec les machines. Ça commençait à faire du monde entre les machines, le batteur et le percussionniste, qui est absolument génial, le passage, je trouve.
Ah, mais ça, c'est justement, c'est ça la difficulté. Ouais. Et en plus, c'est vrai qu'on envoyait beaucoup d'infos, tout le monde envoyait beaucoup d'infos, et il fallait chacun trouve sa place à la double croche, quoi.
Ouais.
c'est pour ça que c'est difficile de trouver des gens qui font ça bien, quoi.
Ouais. En parlant des solistes, comment ça se passe? Tu m'as un peu expliqué déjà les différents travails sur les albums. Je pense aussi notamment en live, mais également sur la dernière démarche dont tu parlais au niveau des albums. Au niveau des effets et du travail du son sur les instruments solistes, parce que dans le jazz et notamment pour les soufflants, le son qu'ils produisent est... c'est un Graal, quoi. Pour tout le monde et pour eux en particulier, je pense. Tous les triturages dont ils sont victimes, on va dire, les effets, les trucs comme ça, etc. Est-ce que ça vient d'eux? Est-ce que ça vient de toi?
Il y a deux façons. C'est ou bien de mettre l'effet à la prod, ou bien de mettre l'effet à l'enregistrement.
Ouais.
D'une façon générale, moi, je préfère...
Parce qu'on joue pas forcément pareil avec l'effet et le son.
Donc, je sais pas, je pense, dans Stories, il y a un morceau qui s'appelle Flavi Flav, où il y a Flavio Boltro qui a un son super déchire. Bon. Il l'avait dans le casque quand il a enregistré, et c'est ça qui fait qu'il va à cet endroit-là et que ça sonne comme ça, quoi.
Par moment, on peut penser à une guitare électrique.
Mais... Ouais. Et il jouait vraiment dans le son, et je pense que d'une façon générale, quand on a une idée de l'effet qu'on va mettre, même si c'est pas exactement le même, il faut mettre l'effet à la prise sur une piste séparée, quoi. On garde le dry et puis on retravaille les effets, quoi. Mais il faut que l'instrumentiste puisse entendre où va la musique. Ne serait-ce qu'un délai, tu vois, parce que rythmiquement, jouer autour du délai, l'espace que ça donne, c'est-à-dire ne pas jouer pendant 10 secondes, peut paraître très long quand on est en dry, et quand on a une espèce de délai filtré, ça peut être, non simplement pas trop, mais juste ce qu'il faut, quoi.
Ouais. D'accord. Et donc, habituellement, tes musiciens, ils ont la démarche de contribuer à cette approche du son? Ou c'est plus toi qui les oriente, qui leur dit tiens là-dessus il faut.
Ça dépend des formations et des musiciens, et ça dépend de la musique et de la place qu'ils ont dans cette musique. Alors moi c'est aussi un apprentissage que j'ai fait d'un groupe sur l'autre, c'est justement ouvrir En fait, le principe, c'est vraiment de tout mettre en commun. Quoi. C'est ça l'idéal, c'est-à-dire que on est tous à boire autour du même puits. Il ne faut pas que l'ordi soit un chef, il faut que ce soit un instrument comme un autre, qui a son son, qui a sa puissance, ses exigences, de même que la contrebasse ou la batterie ou n'importe. Et l'idéal, effectivement, c'est que tout le monde puisse contribuer, pousser un petit peu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde ait un ordi, j'ai pas d'objection, mais il faut que chacun ait la conscience de sa place dans l'ensemble, quoi. Et qu'il puisse s'approcher du cœur de la musique, prendre l'affaire pendant une seconde, repartir, mais toujours être en relation avec tous les autres dans ce contexte musical. Pour moi, c'est ça le. Mais c'est une règle qui est valable pas seulement en électronique, c'est dans toutes les musiques.
Quoi. Ouais, d'où l'intérêt aussi peut-être d'enregistrer sur la dernière méthode que tu as évoquée, c'est-à-dire avec des morceaux qui sont déjà bien intégrés et d'enregistrer au maximum live.
Exactement.
Même à travailler après.
Exactement. Ouais, mais c'est un long cheminement, on apprend comme ça, c'est bien.
Alors, on a beaucoup parlé du travail sur l'électronique, etc., mais tu ne fais pas que du jazz électronique. Et quel est un peu ton rapport à l'un et à l'autre? J'ai l'impression que tu. En regardant ta discographie, tu fais un petit peu un coup l'un, un coup l'autre. C'est quoi? C'est une respiration?
C'est un peu schizo.
C'est que tu n'arrives pas à te passer des deux, mais tu n'arrives pas à choisir.
C'est-à-dire, là, maintenant, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir poursuivre les deux. J'ai un trio acoustique, donc, qui est le disque d'avant, avec lequel on tourne, on continue de tourner. Et j'ai incroyablement de plaisir à jouer ce répertoire et avec les musiciens, puis là ça fait un an qu'on joue ensemble, donc on est bien tight, les concerts se passent super bien, on a vraiment l'impression d'être dans une authentique émotion musicale. Et puis après ça j'ai ces projets là, ce projet dans lequel il n'y a quasiment aucune improvisation, enfin jazz entre guillemets, on est beaucoup plus à la recherche de son, pour moi, les deux sont pas incompatibles. Je sais que ça gêne pas mal de gens. Je sais que ça porte à la critique d'avoir un langage classique et un langage moderne. Alors, t'es qui? T'es classique? T'es moderne? Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas vraiment de réponse à cette question. J'adore jouer du vieux jazz entre guillemets. Maintenant que je me fais plaisir dans l'électronique, j'ai pas l'impression de tourner en rond en faisant quelque chose de vieux. Puis même de toute façon là, le dernier album que j'ai sorti,
c'est pas parce que c'est acoustique que c'est vieux.
Ouais, c'est ça. Plus, c'est pas, et puis cet album acoustique, il est nourri de mes trois disques électro auparavant, autant dans la conception de la musique que de la façon dont c'est enregistré, dont c'est jouable sur scène, etc. Pour moi, ça a beaucoup changé la donne. Mais c'est pas du tout incompatible avec la musique électronique, non, je pense pas. Mais je conçois que ce soit difficile à avaler pour quelqu'un d'autre, ou que ce soit irritant, ou je sais pas.
Non, c'est un chiffon, absolument pas, j'adore les deux, donc. Et bien plus encore. Non, mais c'est surtout toi, ta position en tant que musicien par rapport à ça, des plaisirs que tu pouvais retirer dans l'un ou dans l'autre.
Ah ben, très grand, très grand. Ouais. Et de toute façon, moi, le plaisir, c'est ma boussole. Hein. C'est-à-dire que si je m'amuse pas à faire un truc, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté à un moment de faire du jazz acoustique. C'est parce que je me faisais plus plaisir. Parce que j'avais l'impression d'être au bout de mes idées, au bout de ma technique et tout, d'être une pauvre merde et de pas me faire plaisir. Et ça, c'est un problème, quoi. Parce que quand même, on a la chance de faire un métier.
Oui.
On se fait plaisir, alors si on le fait sans plaisir, là, ça plus le coup.
Ouais, j'ai une question avec...
Vous voulez un petit coup de Jack Daniels?
Oh, ouais, pourquoi pas, mec.
Je sens son magnétisme opérer lentement.
On a parlé un petit peu tout à l'heure avec les histoires des faits sur les musiciens, etc. et tout, mais.
Ah, super. Merci.
Le travail sur le son, alors cette fois-ci vraiment le son de l'instrument lui-même, quoi, notamment, dans le quartier, etc. et tout, dans l'approche électronique, est-ce qu'il conserve la même importance ou est-ce qu'on confie un peu plus la définition du son, du grain sonore derrière aux effets, au traitement, etc. Ou est-ce qu'il y a toujours, justement chez les musiciens, une recherche du de la belle note soufflée au saxo qui...
Mais c'est-à-dire, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que quand on met... Quand elle, les effets s'accumulent, enfin, se superposent, c'est-à-dire que une note jouée au saxophone avec âme et qui sonne bien acoustiquement, après ça on la traite, elle va garder son âme. C'est pour ça que les gars ils vont chercher dans les vieux disques du pur solo de Coltrane ou d'Elvin Jones ou quelque chose. Parce qu'il y a autre chose que des notes ou du son. Ouais. Il y a une âme véritable qui passe à travers. Et ça, tu peux le mettre à travers de tous les effets que tu veux. C'est ça que tu cherches et c'est ça que tu veux garder. Ouais. Donc pour moi, c'est la même. Ça s'annule pas, au contraire, ça se complète.
D'accord. Mais quand on pense en termes de production, ça vaut être de l'art. Il y a des impératifs souvent quand même de temps, de travail, etc. et tout, de temps passé en studio tout simplement aussi qui coûte cher, etc. Mmh. Donc est-ce que le soin, on va dire, apporté à la prise de son, elle-même, hein, et non pas à la façon dont l'instrumentiste va produire son son et l'émotion, mais à la façon dont l'ingénieur va capter justement ce travail-là.
Ouais, alors, dans la mesure où l'enregistrement est vraiment un stade intermédiaire, qu'on sait qu'il y a toujours de la post-prod derrière, la règle de survie de base est d'avoir la captation la plus fidèle possible. Hein, alors effectivement, si c'est un groupe qui est très bien répété, qui a un répertoire qui est très au point, alors à ce moment-là, on peut faire pencher la production à l'enregistrement dans un sens ou dans un autre. Mais personnellement, je ne suis jamais arrivé à ce stade où je jouais avec un groupe qui n'avait pas enregistré et qui avait un répertoire complet suffisant pour être enregistré, pour pouvoir me poser cette question vraiment de filtre... technique à ce stade de la prod. Mmh. Essayer de, au contraire, de capter le plus fidèlement ce qui se passe et d'avoir 3 micros sur la caisse claire de façon à éventuellement aller prendre celui d'en haut, celui d'en bas ou les overheads. Se garder le plus possible de captation, transparente quoi, du son.
D'accord. À propos de travail sur le son, etc., t'as eu l'opportunité dans ta carrière de travailler dans les deux. Est-ce que t'as une remarque à faire sur les différences entre les studios français et les studios US?
Alors,
qui est peut-être un peu une tarte à la crème, parce qu'il y a peut-être autant de façons de travailler ou de qualité
non,
que de studio.
Je peux te répondre sur le jazz, hein, parce que moi, quand j'habitais à New York et que je fréquentais les studios new-yorkais, c'était vraiment pour du jazz. C'est-à-dire que je serais tenté de te répondre en marxiste, si tu veux, l'histoire par les outils de production. Le fait que à New York, il doit s'enregistrer un disque de jazz toutes les 6 heures, fait qu'il y a des studios qui sont spécialisés là-dedans, qui ne tournent que là-dessus. Il y a, entre 6 et 10 studios à New York qui n'enregistrent que du jazz. Bon, avec de temps en temps autre chose, quoi, mais le jazz constitue leur fonds de commerce. Ça veut dire que le micro sur le piano, il sera toujours mis au même endroit. Que c'est ça qui va faire qu'on peut faire un disque en 6 heures à New York. Parce que les gars, ils savent tout de suite comment ça marche, comment ça se fait. Ils en ont fait 500, ils en referont 500. Donc il n'y a aucune perte de temps, d'énergie, tout arrive, tout est câblé, c'est câblé comme il faut. Alors que si la veille c'était de la variette, le lendemain ce sera, un groupe, une chorale. À chaque fois il faut tout retirer, tout recâbler, repositionner. L'ingé son qui dit attends, qui sort, puis qui repose les micros, etc. Bon, déjà on le fait. On est obligé de le faire par rapport à la musique spécifique qui à chaque fois est un petit peu différente. Donc ce batteur joue plus fort que l'autre, donc on recule un peu les overheads, on les rapproche. Chacun a vraiment sa façon de produire du son, donc il y a une façon différente de disposer les micros. Mais le fait d'avoir des studios qui sont dédiés à ça rend la musique facile. Le fait qu'il y ait beaucoup de gars d'ingé son qui travaillent en direct de piste Moi, quasiment tous mes disques acoustiques enregistrés aux États-Unis, c'est du direct de piste, quoi. Il n'y a qu'un quintet que j'ai fait. Bon, c'était peut-être un peu risqué. Et puis, en plus, heureusement... Enfin bon, c'était un peu un bordel. Donc ça, on l'a fait en multipiste. Mais jusqu'à des quartets, piano, contrebasse, sax, ou piano, contrebasse, batterie, sax ou trompette, ça, je l'ai fait en deux pistes. C'est-à-dire que tu rentres en studio et puis le soir, tu as le disque. Le soir, donc tout ça, ça fait que c'est une ergonomie, je dirais, très fluide.
D'accord.
Très fluide. Donc oui, c'est pour ça qu'on va enregistrer à New York. C'est pas pour le... Enfin, c'est la frime aussi. Mais c'est pas... Non, c'est pas de la frime. C'est vraiment de l'argent gagné aussi.
Oui, oui, j'imagine quand même. D'ailleurs.
Et je me rappelle, à l'époque, j'avais enregistré un disque en trio donc avec Ira Coleman et Billy Drummond. Et puis, je jouais avec Barney Whelan en France. Et Barney, un jour, il me téléphone un peu emmerdé. Puis il me dit, bon, voilà, pour mon prochain disque, enfin, je voudrais... Ça m'emmerde de te demander ça, mais bon, je voudrais te piquer ta rythmique. Je dis quoi ? Je dis oui, je voudrais faire un disque en trio, saxo, contrebasse, batterie. Et je voudrais te piquer à Ira Coleman et Billy Drummond. Je dis mais tu me piques rien, t'es fou, vas-y, au contraire, c'est super. Bon. Du coup, il m'a invité à passer au studio et du coup, j'ai posé des pistes. Enfin bon, bref, c'était très cool. Mais... et donc, il y avait Billy Drummond. C'était la première fois qu'il bossait en studio en France.
Ouais.
Ira, on avait déjà bossé ensemble. Bon, mais lui. Et alors, on avait 3 jours pour faire l'album. Mmh. Ce qui est un luxe phénoménal aux États-Unis.
Ouais.
Encore une fois, où les gars, ils ont vraiment l'habitude, c'est que des premières prises. Et puis bon, on fait l'album en 6 heures, quoi. C'est et je me rappelle Billy Drummond, il a passé 3 jours à dormir sur le canapé. Puis il se réveillait, il disait « Ah, oh, je le crois pas !» Et bon, pour moi, ça a résumé toute la différence entre enregistrer un disque à New York et à Paris.
Ouais. C'est curieux d'ailleurs, parce qu'on pourrait supposer que le jazz US aurait un peu plus de moyens si le marché étant peut-être un peu.
C'est pas une histoire de moyens. Bah, c'est-à-dire, les moyens, il les a parce qu'il a la clientèle.
Mmh.
Après ça, c'est du très bon matos, c'est tout ça. Mais les moyens, ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de temps. Et puis surtout, de toute façon, aux États-Unis, ils sont toujours en train de chercher le meilleur rapport entre la dépense et la recette. Hein.
Ouais.
Donc, moins de temps on passe en studio, plus d'argent on gagne. Quoi.
Ouais, ouais.
Donc, pour eux, c'est ça le point focal de l'exercice.
D'accord. Et sur l'approche des ingé-sons, des choses comme ça
Ça va un peu dans la prolongation de ce que je te dis. Quoi.
Le son new-yorkais, c'est le son new-yorkais, quoi. On l'entend quand même.
Oui.
Ce qui n'est pas une critique. Hein,
Non, mais c'est aussi un son dans la façon de jouer, c'est un peu de tout. Quoi. C'est un ensemble, effectivement. Mais bon, moi je sais que j'ai travaillé avec plusieurs ingé-sons différents, je sais qu'ils n'ont pas les mêmes sonorités. Que si c'est David Baker ou si c'est, comment il s'appelle celui avec lequel j'ai fait Spoon Rhythm, qui est aussi un très grand ingé son, qui fait des trucs de Cabrel et tout ça. Comment j'ai fait pour oublier son nom? James Farber. Donc je pense que c'est vraiment un son un petit peu général, de même qu'il y a le son ECM. Bon, c'est sûr que c'est. Bon, d'abord Manfred Eicher, puis je ne sais plus comment il s'appelle son ingé son, qui a vraiment défini un son. Mais d'un autre côté, c'est aussi le répertoire, c'est-à-dire que les gars qui signent, ils vont jouer dans ce son-là. Quoi. Donc, il y a vraiment un échange entre la musique et le son qui fait que ça fait une entité reconnaissable. Alors, le son new-yorkais, oui, mais après ça, il y a différentes façons de bosser. Mais c'est vrai que quand on deal toujours avec la même musique, on tombe sur les mêmes solutions. Quoi.
Ouais.
Les mêmes sons de basse, les mêmes sons de piano. Ben.
Et la Jamaïque.
Ah. On a enregistré en Jamaïque avec Ernest Franklin. Mais quand on a enregistré, j'ai fait une session où j'ai vraiment suivi toute la prod, quoi. Parce que souvent c'est dans une espèce une espèce de cabine. Bon, alors il y a certaines bandes qui sont prêtes, il y a une pauvre table, tout ça, on enregistre, puis après ça va partir en prod à Kingston ou à Londres, machin, puis ça revient. Bon, c'est sûr que la musique jamaïcaine maintenant est devenue quelque chose de très produit, et je dis pas ça du tout d'un point de vue péjoratif,
ouais, ouais.
Mais c'est une musique qui passe entre beaucoup de mains, l'ingé son a beaucoup d'input, donc on enregistre ici, on mixe là-bas, on masterise là-bas, enfin bon, c'est une musique qui voyage. Mmh. Donc qu'est-ce que je peux dire sur la Jamaïque, c'est-à-dire que les gars, en tout cas quand ils la jouent, c'est pour de vrai, quoi.
Ouais.
Je me rappelle un batteur avec qui on enregistrait, j'ai complètement oublié son nom. Mais alors, il était tout seul dans sa cabine, et moi, j'avais pas le casque, j'entendais juste jouer, j'entendais juste sa partie de batterie. Mais il cognait comme une brutasse, et c'était monstrueux, c'était exactement ça. Le gars, il mettait mais vraiment tout, quoi. Il mettait tout ce qu'il fallait, quoi, c'est tout. L'énergie, la précision, le machin, tout y était, quoi. Mais ça, c'est parce que les gars, ils baignent dedans, quoi. Ouais. Ça le fait.
Ça m'amène une autre question aussi, justement sur le travail musical. Je suppose que quand tu travailles avec quelqu'un comme Anan Malik, ou des gens, enfin, un sideman, mais sûrement avec des gens aussi forts, je pense qu'Anan Malik, ça, tu peux pas ne pas en retirer toi aussi quelque chose que peut-être à un moment ou un autre t'auras envie d'exploiter. Est-ce que t'as d'autres envies de triturer le jazz, par exemple en ouvrant, tout en conservant l'électronique, par exemple en ouvrant à des côtés world, vers l'Afrique, vers l'Asie, vers l'Orient.
Oh oui, aucun problème, aucun problème. La vie est longue, j'adore la musique, toutes les musiques du monde. Il y a beaucoup de choses que je trouve extraordinaires, des grooves monstrueux, africains bien sûr. Asiatique.
Jamaïcain.
Ah ouais. Bah, Jamaïcain, là, il faut que je m'en défasse. Là. Je fais encore un dub là-dessus. Là. Je pense que ce sera le dernier.
J'ai rien. Ok. J'ai l'impression qu'on a un petit peu fait le tour de ce que j'avais envisagé. On a parlé pas mal de choses. Oui, une chose aussi, un petit peu sur la composition, l'inspiration. C'est une question un peu bateau, mais voilà, par laquelle on a pris ton âme de passer. Sur quoi tu pars d'abord? Est-ce que tu as une habitude qui est de partir...
Pas de règle.
Donc un coup, ça peut être une boucle qui va t'inspirer, ou tu vas te triturer aux machines, l'autre fois, ça va être une mélodie trouvée au piano, et puis là-dessus, tu vas construire.
Exactement. Voilà, une troisième fois, ça va être une règle que je vais me donner, que je vais essayer de suivre, me forçant à serrer les coudes, tomber sur autre chose. Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Bah, il y en a qu'une seule, c'est que c'est en gardant les mains sur la matière que les idées viennent, quoi. Ou c'est parfois en écoutant un autre groupe en me disant « Ouah, ça, je vais leur piquer
!» Ouais.
Bien, réflexe bien connu. Monstrueux, je leur pique.
Non, mais c'est bien, au moins quelqu'un qui le dit.
Ah bah ouais, bah attends, mais c'est sûr que quand t'es jazzman, tu vas écouter des gens et t'écoutes les gars jouer, et ton premier réflexe c'est l'imitation, c'est-à-dire que t'entends ça, tu dis oulala, je le note et tout, puis je me rappelle, j'avais un petit carnet de notes et tout, je notais les idées, quoi, puis je retournais, puis je travaillais à la maison. Pour moi, c'est pas piqué, parce qu'après ça devient autre chose, quoi. Ouais. Et bon, c'est jamais la même chose, quoi, mais c'est une nourriture énorme. Et alors ceux qui diront ouais, moi l'inspiration ça vient de l'intérieur et tout, je suis ma propre source et tout, c'est des menteurs, ou alors c'est des égocentriques invraisemblables, quoi. Mais tout le monde pique à tout le monde, quoi. Tout le monde pique à tout le monde.
Alors à ce sujet là justement d'inspiration, etc., en dehors des musiques des autres, sur un aspect peut-être plus général de vie, etc., qu'est-ce qui nourrit ton inspiration, je sais pas, le ciné, les bouquins, les jardins, les... ou est-ce que t'es... T'es monomaniaque sur la musique.
Non, pas du tout. Je sais que. Que là, j'ai, on va dire que j'ai une inspiration qui est moins constante, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, j'ai tout le temps décidé de morceaux. Tu sais, t'es tout speed, chien fou. Ah, puis après, faire ci, puis après, faire ça. Bon, c'est sûr que là, maintenant, je suis un peu plus calme. Mais le prix à payer, c'est qu'il y a moins d'inspiration. Donc, c'est, je dirais, aux échéances que je me remets. Pour raviver les flammes.
D'accord.
et c'est, comme je suis mon propre patron, c'est moi qui me donne mes échéances. Et donc, c'est toujours comme ça que j'ai fait d'ailleurs. Et je dis, bon bah voilà, l'année prochaine j'enregistre ça, quoi. Et puis je dis à tout le monde, l'année prochaine j'enregistre ça. Comme ça je peux plus reculer parce qu'un vrai gars dit, alors tu l'enregistres toujours, truc, ah bah ouais, ça avance et tout. Donc, moi je sais qu'en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui me plaît bien. Parce que bon, c'est sûr que la pente naturelle qu'on a aussi, c'est à partir du moment où on a un groupe qui tourne et le truc qui va bien, on a envie que ça dure tout le temps, quoi, toute la vie. Mais d'une part, on sait que ça ne dure pas toute la vie, malheureusement. Et je pense que 3-4 ans, c'est une très belle et longue période musicale quand on travaille dans un contexte donné. Moi, je pense que c'est le. J'ai jamais eu un orchestre qui a duré aussi longtemps. Je pense pendant 3 ans maximum. Ça fait déjà longtemps, 3 ans. Hein, ouais. C'est beaucoup de temps. Et donc.
Ça
sorti un gars. Ouais. Alors, il y a. Je dirais une sorte de lassitude. Et puis, c'est normal. On a envie de passer à autre chose. Et si on ne se donne pas. Enfin, si moi, je ne me donne pas des échéances. Je sais que j'ai tendance à devenir un peu paresseux et à me cantonner à ce que j'aime faire et à rester un peu dans le truc, mais du coup en prenant le risque de voir progressivement le l'oxygène se réduire, quoi.
Ouais, et tourner en
rond. Ouais. Voilà.
Okay. Bon, on a fait un peu le tour. T'as encore un petit peu de temps ou...
Ouais, on peut aller jusqu'à 4 heures. Ouais. Ouais.
D'accord. Bah on pourrait peut-être faire un petit tour
du matos
de ton antre.
Allez.
Et puis tu nous causes, je sais pas, de ce qui vient. Ou alors si t'as envie de nous faire un petit bout de morceau au piano, au Rod.
Ou je sais pas, ce que t'as envie. C'est de faire écouter des bouts de du prochain.
Ouais.
Donc voilà, partie amplification, un ampli Kenwood que j'avais acheté aux États-Unis, que je très bien. Un DAT, qui est un peu le du studio. Voilà, j'ai toujours un petit DAT dans ce studio. Donc, les pauvres reverb dont je me sers pour faire les prises les casques, comme on avant. Des BBX standard. Formidable, regarde, multi-effet, etc. Petite carte module, deux petites cartes modules, c'est pas le Pérou, mais bon, on fait le travail. Métrange de mine, ça c'est vraiment bien, ça c'est le Pérou. Mieux pour faire de la prise en...
Ouais.
Je t'ai lui qui est formidable.
Ouais.
7.
Ouais.
Ah, qui est très bien, j'aime beaucoup. Hein. Donc voilà, je serai à peu près opérationnel.
D'accord. Ouais,
donc c'est vraiment du petit home studio, bon, avec les grappes, les amplis, qui vont bien.
Et le marteau.
Et alors
Et tu sors sur un twin, un deluxe.
Ouais. Ouais. Mais je t'avouerai que quand je l'enregistre direct.
Direct, ouais. Ouais, c'est moche.
Mais c'est vrai que ça sonne bien à travers l'ampli. Mmh. Avec les réglages comme ça. Mmh. On a vu.
Ouais.
Moi je vois pas la basse à fond.
Ouais.
C'est un peu bordel, mais c'est un très bel max. Middle max, c'est quasiment à fond.
D'accord.
Et ça c'est comme ça que ça sonne. Et alors bon, du coup, comme j'ai des instruments, voilà, là il y a mon ornée.
Ouais.
Et du coup, moi j'ai plein de potes qui me laissent des instruments, tu vois. Donc là, c'est un super balafon. Là, j'ai des djembés. Là, j'ai des tablas. Là, il y a un violoncelle. Enfin, bon, tu vois, c'est... chacun amène son petit instrument. Ce qui fait que, bon, finalement, il y a pas mal de trucs. Et c'est surprenant le nombre de trucs qu'on peut faire avec si peu de matos.
Quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah oui, oui. Bah...
Juste avec un couple stéréo.
Ouais, c'est énorme aujourd'hui. Petite question justement, t'as une préférence sur quel mode de travail? Je travaille beaucoup ici. En fait, est-ce que t'aimerais même arriver à t'affranchir du studio ou est-ce que t'aimes bien aussi t'en aller en studio
Ça dépend des projets, mais moi je suis plutôt je fais avec ce que j'ai, quoi. Mmh. Et j'aime beaucoup travailler ici. Et puis c'est je connais bien mon circuit. Ouais, j'oubliais, je t'ai pas présenté mon patch. Mais du coup, si tu veux, tout est patché de façon à ce qu'on puisse enregistrer et jouer de la musique n'importe où dans l'espace, quoi. Plus je travaille à la maison, plus je suis content, quoi.
Ouais,
plus je suis content, puis les studios c'est cher, quoi.
Ouais, c'est ça.
Alors bon, quand on peut pas faire autrement, quand il faut faire du multipiste, oui.
Ouais.
Mais pour tout ce qui est pas multipiste, tout ce qui est... Alors, je fais ça à la maison.
Et t'arrives à concilier en studio le fait d'être à la fois musicien et à la fois quand même producteur
Il faut bien, hein. Ça vient
fait beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer à la fois.
Oui, mais au bout d'un moment, ça devient une espèce de seconde nature, c'est-à-dire que bon, on a quelques réflexes de base par rapport au son. Quand on commence à jouer, on dit tout de suite ah bah tiens, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Ça devient une espèce de tâche de fond continuelle. Alors au début, c'est sûr qu'on est très conscient et alors ça court-circuite les autres pensées, etc. Puis au bout d'un moment, ça devient un peu ouais, une tâche de fond quoi. On y pense tout en avançant. Bon, ça n'empêche pas de faire des erreurs, mais c'est le métier quoi. C'est ça, ça le métier, quoi. C'est que. Ah oui. Enfin.